Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Bon, il est urgent d'être heureux, n'est-ce pas? Ceux qui, dès le 24 mai, iront applaudir aux Folies Bergères à Paris, le show du groupe culte des années 60, miraculeusement reconstitué, les Parisiennes, tout ça sur les musiques euphorisantes de Claude Bolling, eh bien ceux-là verront leur taux d'endorphine grimper de façon significative. Alors, elles sont quatre, ces Parisiennes, Ariel Dombal, Elena Noguera, Ina Modja et Mareva Galanter, mais cet après-midi, on va partir en balade avec deux d'entre elles, deux magnifiques jeunes femmes, Ariel et Elena. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Bon, sans détour, je vous pose la question. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'une Parisienne? En fait, une Parisienne, c'est un mythe, c'est un fantasme, une Parisienne?
Bon, eh bien, c'est un peu tout ça, une Parisienne. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on dit le mot Parisienne, les yeux s'allument. Parce que la Parisienne a ce petit quelque chose. Et c'est ce petit quelque chose qu'on essaye de restituer sur scène.
Elle adhère, Elena?
Oui, tout à fait, j'écoute, j'adore quand Ariel nous raconte les choses. Mm-hmm. Mais je reprends aussi des mots qu'Ariel a déjà donnés aussi en répondant à cette question. Les Parisiennes scintillent, en fait, les quatre Parisiennes que vous verrez le 24 mai sont très scintillantes. Il y a beaucoup de paillettes, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de gaieté. Beaucoup d'ironie, parfois.
Elles sont pertinentes, elles sont libres.
Oui.
Voilà. Comme est la figure de la Parisienne. Parce que pourquoi est-ce qu'elle plaît dans le monde entier? C'est parce qu'elle est toujours d'avant-garde. Oui. Elle est d'avant-garde dans la pensée, avec bon, toutes les très grandes figures qui ont changé la condition des femmes. Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, toutes ces battantes, Louise Weiss, qui a permis le droit de vote des femmes, etc. Mais elles ont aussi ce glamour propre aux Parisiennes, même si elles viennent d'ailleurs. C'est des filles qui s'intéressent à la mode, qui s'intéressent à la rue, qui sont éveillées, qui sont débattantes. Elles ont quelque chose d'unique.
Alors, femmes d'esprit impertinentes et libres, vous l'êtes toutes les deux, c'est certain. Donc, vous êtes des Parisiennes de cœur, même si vous êtes nées et avez grandi sur d'autres terres. Vous, Ariel, on vous présente souvent comme une diva latina, puisque vous avez été élevée au Mexique, où votre grand-père était ambassadeur de France. Quant à vous, Elena, eh bien, un sang latin coule dans vos veines, puisque vos racines sont portugaises, mais vous avez grandi en Belgique. Vous êtes donc des Parisiennes citoyennes du monde.
C'est ça. Mais souvent, les Parisiens et les Parisiennes viennent d'ailleurs. Paris est fait de gens qui viennent d'horizons différents. Et les Parisiennes que nous incarnons en sont la preuve. C'est que Mareva vient de Tahiti. Ina, elle vient
du Mali.
Mm-hmm. Et donc, on vient d'horizons différents. Et c'est presque Paris qui nous a adoptés, finalement.
Oui. Chacune de vous, effectivement, a grandi dans un univers, alors très différent, chacune sur ses terres, mais un univers où la musique était reine. Plus précisément, Ariel, au Mexique, puisque je sais que vos parents étaient mélomanes, entre Rachmaninoff et la salsa qu'on entendait dans les rues, voilà. Votre oreille, elle s'est formée sur quels airs, quels chants, avec quels compositeurs?
Alors justement, j'ai été plongée dans la musique depuis que je suis bébé. Il y avait de la musique dans la maison tout le temps. Alors il y a des tas de choses qui m'arrivent, par exemple, d'écouter par hasard, et je les connais par cœur. Je ne sais pas, la mère de Debussy, ou des choses de Ray Conniff, ou du Gainsbourg, ou du Mozart, ou un éclectisme fou dans la musique, mais que je n'ai pas appris, qui est entré par osmose à cause du fait que mes parents étaient très mélomanes.
Alors, Elena Noguera, votre papa, lui, était musicologue. Oui. C'était inespéré pour la chanteuse en devenir que vous étiez, ou bien ça n'a eu aucune influence, en fait, sur vos goûts et vos choix?
Ah, si, de toute façon, oui, ça a de l'influence, quoi qu'on en dise, le milieu social et culturel dans lequel on est nous constitue. Donc, si. Lui, il était spécialiste en jazz, en free jazz. Donc, effectivement, la fantaisie est arrivée très vite grâce au free jazz, parce qu'il nous emmenait en concert, voir des musiciens comme Hans Benning. Je ne sais pas si vous qui avez fait du jazz et de la batterie aussi. Voilà, c'était des musiciens très fantaisistes et qui jouaient une musique très déstructurée, donc la fantaisie est arrivée par là.
L'adolescente que vous étiez adhérait complètement ?
Non, c'est-à-dire que maintenant j'aime le jazz, mais effectivement, quand ça c'est votre culture plus ou moins imposée, parce que la culture à la maison était comme une dictature, donc il y avait quelque chose d'assez autoritaire dans leur goût musicaux, littéraires, artistiques. Du coup, moi j'ai aimé les yéyés, les filles à short, à paillettes, parce que c'était provocant.
C'était votre autre rébellion chose. À vous.
Oui, c'était punk en fait, c'était mal vu de regarder le hit parade. À l'époque, il y avait le hit parade, ou ce qu'on peut assimiler au top 50. Mmh. C'était trop populaire, c'était pas chic. Et donc moi, ma rébellion à moi, c'était d'aimer les chanteuses à short en paillettes.
Ce qui est fantastique chez Elena, c'est qu'on sent une très très grande musicienne derrière la chanteuse. Justement, probablement à cause de ce sérum physiologique familial dans lequel elle a été. Elle connaît vraiment la musique. Et donc, c'est une chanteuse, c'est d'abord une artiste musicienne. Et puis en plus, elle sait très bien chanter, mais ça ne se pose, c'est pas quelqu'un qui est comme ça tout à coup la génération spontanée. Ah tiens, ma sœur chantonne, non, si je faisais ça. On sent.
Mais c'est vrai, et je pense qu'effectivement, le fait d'être la sœur de Lio, en tout cas, m'a poussée hors un endroit de confort. C'est-à-dire qu'il a fallu, j'ai eu besoin de prouver que je valais quelque chose. Et donc effectivement, j'ai appris la musique, j'ai écouté, je m'y suis intéressée, j'ai écrit mes chansons, j'ai voulu amener une pierre en plus. Que juste être la petite sœur qui va aussi chanter.
Oui. La musique, et pas que, parce que bon, vous êtes toutes les deux, Ariel et Elena, des artistes accomplis, qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient la comédie, qui réalisaient. Ariel signe même des mises en scène pour l'opéra, avec par exemple la Traviata de Verdi. Quant à vous, Elena, bah, vous prenez votre plume, vous avez signé déjà 3 romans, dont le dernier, Ciao Amore, est paru chez Flammarion. Donc vous maîtrisez superbement l'art de naître. En fait, jamais là, on vous attend.
On est des Parisiennes. La Parisienne a cette possibilité.
La Parisienne est une aventurière, une aventureuse.
C'est vrai qu'Ariel est une grande sœur pour nous. C'est-à-dire que c'est une des premières femmes artistes à être, on appelle ça éclectique, mais ça n'est pas juste, mais en tout cas à faire des choses, à être protéiforme, à pouvoir s'exprimer dans plusieurs choses, à passer d'objets très 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 underground à des objets très populaires, et d'avoir cette liberté.
Voilà, l'album par exemple La Rivière Atlantique avec Nicolas Kerr, qui était une espèce d'objet complètement surréaliste, alors que vous êtes un personnage à la fois populaire et hype.
Voilà, mais je pense que pour nous les femmes, pour avoir nous les filles, tout est toujours beaucoup plus difficile. Pouvoir faire ce grand écart, se permettre ça, c'est comme être un funambule. Il faut savoir marcher sur un fil extrêmement tenu pour ne pas se laisser happer, attraper par les images et par le fait, toujours les fameuses cases dans lesquelles on veut vous mettre comme une poupée Barbie dans sa boîte.
On adore ça en France.
Et oui, et alors donc, mais je pense que toutes les femmes ont ce problème, et les artistes en général, mais les femmes, c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est la chose dont je suis le plus fière, c'est que je vis la vie que j'ai voulu vivre, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et je vois que Elena partage complètement.
Oui, je dodeline de la tête. Je dis oui avec ma tête.
Bon, alors, reformer le groupe Les Parisiennes, c'est une idée qui prend en fait le contre-pied des productions actuelles. C'est insuffler une énergie positive, assumée dans le marasme ambiant, c'est ça ?
Oui, c'est très frais. C'est vrai que c'est les chansons sont très fraîches. Elles ont l'air très pop, bien que ce soit Claude Bolling qui les a composées. Donc elles sont quand même
compositeur de jazz.
Voilà, elles sont quand même très jazzy, mais comme les paroles sont assez fraîches, ça a l'air de petits bonbons anglais, même s'ils sont français et parisiens. Oui. Et effectivement, le spectacle sera scintillant. Il y a 25 tableaux, 15 costumes, 4 danseurs, 4 musiciens. C'est une vraie revue.
C'est une vraie revue. C'est une vraie revue. Et puis sur quelque chose qui est tellement exaltant, c'est que les gens connaissent les chansons. Donc, il y a tout de suite une adhésion. On se dit, ah, mais oui, ah, mais ça, c'était les Parisiennes. Oh oui, mais j'adore. Ah, c'était les Parisiennes. Ah tiens, oui, voilà.
On a mille choses à se dire cet après-midi, oui, avec Elena Noguera, avec Arielle Dombal. On fait une très courte pause, oui, et on retrouve tout de suite nos Parisiennes.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Dès le 24 mai prochain, le groupe culte, le groupe mythique des années 60, Les Parisiennes, va embraser avec une revue musicale scintillante, me dit-on, oui, Les Folies Bergères à Paris. Et ensuite, elles partiront en tournée avec une vingtaine de dates. Mais cet après-midi, bah, on a le bonheur de se balader en compagnie d'Arielle Dombal et d'Elena Noguera, qui sont en fait la moitié du groupe, mm-hmm, puisque vous avez deux autres camarades, oui, qui sont Ina Modja et Mareva Galanter. Alors, on continue notre conversation, mesdemoiselles. Arielle Dombal, les médias se délectent de ce qu'ils croient être chez vous, de l'extravagance. Mais quand on grandit au Mexique, parmi les dieux aztèques, les dieux mayas, olmèques, toltèques, que sais-je, grâce à un père collectionneur d'art précolombien qui vous entraînait dans ses fouilles archéologiques, comme si vous tourniez à la poursuite du diamant vert, bah, j'imagine qu'il est difficile de ne pas voir la vie comme un roman. Oui. En fait, est-ce que votre père voulait que sa fille soit une héroïne?
Il voulait surtout qu'elle soit un bon petit mec, droit dans ses bottes, et que je n'ai pas peur ni des araignées, ni des crocodiles, ni des mantarrayas, ni de la forêt,
c'est
ni de la jungle.
C'est quoi les mantarrayas?
Les mantarrayas, c'est les raies. Et il y en a dans le Pacifique. Moi, j'avais toujours peur des raies. J'avais pas peur des requins, que j'ai vu quelquefois sous l'eau, et ça fait quand même un peu peur, mais la raie me faisait très très peur.
Donc votre père vous emmenait nager au milieu des mantarrayas.
Voilà, mantarraya. Alors la mantarraya, quelquefois on est au-dessus, elle est au-dessous, et elle a deux yeux comme ça, et vous passez au-dessus, et ça fait peur, et là, cette espèce de queue qui peut vous piquer, vous foudroyer. Non, j'avais très peur de la mantarraya.
Il a réussi à faire un garçon manqué, intrépide, de sa fille gracieuse, blonde et frêle, ou pas.
Mais une partie de moi, ce côté aventurière que j'ai, ça vient de là, de cette enfance au Mexique, de garçon manqué, des forces comme ça, voilà.
Alors, vous me parlez de la nage au milieu des raies dans le Pacifique, mais par exemple, les guides indiens qui ouvraient les chemins à la machette dans la jungle pour parvenir au site fabuleux de Campeche et toutes ces pyramides avant qu'elles ne soient signalées sur des cartes, tout ça, vous l'avez connu aussi.
Oui, ça j'ai connu. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que quand je pense à ça, je me dis, mais qui a connu ça? C'est extraordinaire d'avoir un père comme ça, tellement aventurier, et qui n'avait peur de rien, et qui avait cette passion des civilisations disparues. Du coup, moi j'ai une vénération pour les civilisations, quelles qu'elles soient, ça m'intéresse. Je me dis, j'aurais pu aussi naître Chichimec. On dirait pas.
C'est quoi Chichimec?
Chichimec, c'est une tribu indienne. Voilà, parce qu'il y a les Toltecs, les Olmecs, les Chichimecs, les Mnahuatl, les Mayas.
C'est fascinant.
Oui.
Voilà, Arielle a des références que nous n'avons pas, Elena.
Oui.
Voilà.
Non, ça, le Chichimec, vous l'avez pas.
Bon, vous, Elena Noguera, vous avez reçu en Belgique une éducation libertaire avec des parents qui avaient fui le Portugal de Salazar, n'est-ce pas? Vous dites d'ailleurs que vos parents étaient des anarchistes post-68ards. Ils vous ont élevé comment, vos parents?
Très librement et de manière, je pense, très insouciante ou peut-être inconsciente, mais avec énormément de goût pour la culture, beaucoup de confiance en nous, c'est-à-dire que la confiance nous responsabilisait. Quand vos parents sont intelligents et vous transmettent beaucoup de savoir et qu'ils vous font confiance, en fait, vous débordez jamais de cette confiance-là, vous la respectez, et ça bâtit des personnes, je pense, en tout cas... Je le suis devenue
bien
très
construite,
très indépendante, très solide.
Oui, mais c'est ça. Alors solide et voilà, parce que avec Elena, quand on répète, elle est vraiment une figure à l'américaine. C'est-à-dire qu'elle sait ses textes parfaitement. Non, c'est vrai, elle est une bûcheuse, mais dans le bon sens, comme
vous
les Américains.
Aussi, Arielle.
Je le suis aussi, mais peut-être elle fait aussi énormément de choses en même temps, mais c'est vrai que moi en même temps je montais un film et là voilà, donc ça me perturbait un petit peu, mais c'est de longue haleine. Les Parisiennes, c'est tout un album, c'est beaucoup de musique, c'est entrer dans une véritable logique esthétique et musicale et tout ça, et beaucoup de répétitions parce qu'il faut qu'on soit impeccable. Mais Elena donc danse tout de suite très très bien. Et elle connaît toutes les paroles, tout ça. C'est quelqu'un qui est, comme je vous dis,
une référence
à l'américaine. Moi, j'adore ça.
Alors, c'est gentil. Je replonge.
J'ai peur d'être énervante.
Dans l'enfance d'Elena. Oui. Oui. Elena donc avec des parents intellectuels qui vous laissaient donc pousser dans une grande liberté, mais qui quand même, par exemple, mettaient entre vos mains quand vous aviez seulement 11-12 ans des livres d'Octave Mirbeau. Mm-hmm. Enfin, des lectures vraiment. Très sérieuse pour une toute jeune adolescente de cet âge-là.
En fait, ils ne les mettaient pas forcément dans ma main, mais ils étaient là, les livres. Donc effectivement, je me servais, je les prenais, j'avais envie de les lire. C'est vrai que ça, c'est une anecdote. Quand on est à l'école et qu'on a 10, 11 ans, 12 ans, les profs de français vous donnent des livres dans un programme à lire. Et je pense que c'était le Capitaine Fracasse. Et j'ai commencé à le lire et puis ça m'ennuyait. Et donc, je suis allée voir la prof et je lui ai proposé, je lui ai dit que j'avais lu. En tout cas, je devais être aux deux tiers et que ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'ai débattu avec elle et je l'ai convaincue de choisir un autre livre. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que j'allais prendre comme autre livre. Et quand je lui ai dit Le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, elle m'a regardée avec beaucoup de doute. Elle m'a dit, ah bon, à votre âge? Je dis oui. Et donc, elle m'a laissé faire. Oui. Parce qu'elle était sans doute curieuse de voir ce que j'allais en faire. Oui. Mais c'est parce que les livres étaient là et qu'on était... On était préparé à ça. Je m'en rendais pas compte. Moi, c'est à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai acheté Angélique Marquise des Anges, j'ai recouvert le livre d'un papier Kraft. Et quand mon père passait, il me disait, tu lis quoi? Je lui disais Thomas Bernhardt, en espérant qu'il me demande pas de vérifier.
Thomas Bernhardt, oui.
Parce que Angélique, c'était du temps perdu. Moi, je pense qu'il a tort. Hein. Je continue à penser.
Moi, j'ai adoré Angélique Marquise des Anges.
Oui. Le résultat est très convaincant.
Oui, très convaincant.
Alors, merci.
Mais finalement, elle est très transgressive.
Oui, voilà, tout à fait. Elena Noguera, vous aviez donc à peine 10 ans quand l'électrochoc de l'immense succès de votre sœur Lio a peut-être fait tanguer l'équilibre familial, parce que c'était vraiment conséquent. Ça aurait pu vous séparer d'elle, pas du tout, ce ne fut pas le cas, mais tout devint, j'imagine, quand même assez compliqué à vivre, à gérer, pour vous comme pour vos parents, parce que soudain, ce membre de la famille qui basculait sur une autre planète, était happé en pleine lumière. Comment vous avez vécu ça, vous?
C'est difficile. Après, comment je pourrais synthétiser en une réponse à la radio des années et des années de difficultés psychologiques? Ben, c'est toujours un choc, une enfant qui se met à gagner beaucoup plus d'argent que ses parents, qui devient la force financière d'une famille. Donc ça, c'est compliqué. Et puis la starification, ce que tout ça provoque, les changements de comportement, non pas que dans la famille mais aussi tout autour, à l'école. Donc je pense que chacun à son échelle a vécu les répercussions de cette espèce de mini tsunami qu'a été le succès de Banana Split, qui vendait 10 millions de singles dans l'Europe et qui a fait d'elle une figure, une icône pop, oui, à l'âge de 17 ans.
Pour
moi, j'en avais 10. Mes parents n'étaient pas très bien vieux non plus, c'est-à-dire que c'est des parents, mais finalement, ils n'avaient que dans les 35 ans. Donc, c'est jeune. Et puis, tout ça, effectivement, perturbe beaucoup. Donc, moi, par voie de conséquence, quand j'ai quitté l'école très tôt,
Et à 15 ans, vous...
15 ans, je suis partie.
Ouais. Voilà, vous avez en fait donc décidé d'arrêter vos études pour vous lancer dans le mannequinat. Mmh. Donc c'est d'abord avec votre physique que vous avez signé votre différence.
Bah, elle est tellement belle que on l'a très vite demandé, parce que c'est une sorte d'Ava Gardner.
Mais vous êtes partie, c'est extraordinaire, parce que vous avez changé de continent, Elena, pour partir vivre à New York. Oui. Ariel, elle, presque au même âge, elle débarquait du Mexique à Paris pour intégrer, n'est-ce pas, le conservatoire de musique et apprendre le bel canto.
Oui.
Donc, vous êtes vraiment de grandes voyageuses, toutes les deux.
C'est vrai, voilà, c'est vrai. On traverse les frontières, c'est ça qui est bien.
Ouais, il faut fuir parfois pour se construire. Il faut trouver un nouveau territoire à conquérir, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
Oui, il y a une liberté. Mais c'est vrai que pour Elena, comme pour tous les fils d'eux, filles d'eux, c'est vrai que Charlotte Gainsbourg, en effet, elle est la fille de Serge Gainsbourg. Et en effet, il y a toujours le label de la légitimité. Et quand on a quelqu'un de comme ça qui explose dans la famille, ou qu'on est fils d'eux, filles d'eux, on en souffre beaucoup, c'est très très difficile. Qu'on soit Chiara Mastroianni avec Catherine Deneuve, c'est toujours des choses très douloureuses, très complexes. Donc c'est aussi un peu la même chose, il faut se dépasser, essayer d'être aussi fort et bien que ses modèles, c'est toujours difficile.
On fait une brève interruption, on retrouve tout de suite nos parisiennes, Elena Noguera et Ariel Dombas.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Tous aux Folies Bergères à Paris, à partir du 24 mai, pour aller applaudir les Parisiennes, ce groupe culte des années 60, miraculeusement reconstitué avec Ariel Dombas et Elena Noguera, qui sont présentes dans ce studio cet après-midi, avec qui on se balade, mais qui ont également pour camarades, puisqu'elles sont quatre, les Parisiennes, Ina Modja et Mariva Galanter. Alors, chère Ariel Dombas,
oui.
C'est un luxe que de pouvoir avouer. Bon, la raison joue assez peu de rôle dans ma vie, car la raison, en théorie, elle doit dicter les choix de chacun. Vous semblez autoprogrammée, Ariel, pour être fantasque, imprévisible, délicieusement extravagante, et puis échapper à tous les codes de cette société, comme les codes de votre métier d'ailleurs. Est-ce que vous êtes douée pour la vie vraie, Ariel Dombas ? Est-ce que vous savez faire tourner une machine à laver ? Est-ce que vous savez cuisiner ?
Alors voilà, non. Et alors, ça c'est affreux. Mais la machine à laver, je n'ai aucune idée sur quel bouton il faut appuyer.
Vous n'êtes jamais arrêté devant une machine à laver, en fait.
Je les trouve très belles. Et surtout, celles qui sont, quand on voit la lucarne ronde avec les trucs qui tournent à l'intérieur, je trouve ça
avec
beau.
Avec le tambour.
Je trouve ça esthétiquement très très beau. Puis maintenant, j'ai vu qu'il y en a des lumineuses et tout ça, ça m'attire. J'ai envie de plonger dedans, être parmi les tissus et de tourner dedans.
Mais Ariel Dombas, il est quand même très très rare d'être à la fois aussi populaire et branché. Vous êtes un cas d'école, en fait. Vous voulez tout.
Il faut, je crois, toujours tout vouloir. Parce qu'il faut que le monde soit un pays de vos 36 000 volontés.
Et il faut que le monde soit un pays de vos 36 000 volontés.
Voilà. C'est vrai. Parce que sinon, on se laisse embrigader. Déjà, la vie, on est tous mortels, tout est difficile, on attrape des maladies. Les gens autour de nous meurent, les gens disparaissent, la vie est dure, etc. Et je pense que les artistes sont des êtres qui sont des hypersensibles et qui doivent apporter quelque chose de l'ordre de l'émotion qui soit très fort. Et donc, il faut y aller, quoi.
Elena Noguera, est-ce qu'Ariel Dombas est aussi anticonformiste que le donne à croire sa légende ?
Oui, c'est vrai, mais en même temps...
Elle l'est vraiment.
Je trouve que c'est très concret en même temps. C'est ça que je trouve assez fascinant chez Ariel, c'est que... La lecture qu'on peut avoir comme ça semble, comme vous dites, extravagante ou céleste, etc. Mais finalement, c'est très concret. Mais ça, il faut accueillir son discours pour le comprendre, que c'est vraiment, en fait, beaucoup plus concret qu'il n'y paraît, je pense.
Oui.
Alors, Elena, vous aussi, vous voulez tout, puisque vous êtes aussi bien pour le chant que pour l'écriture, pour la comédie que pour la réalisation. Et en plus, vous osez. Il paraît que vous savez frapper aux portes et demander. Et ce culot-là, on peut dire que c'est une forme de talent. Mmh. Comment vous expliquez, finalement, qu'on ait mis du temps à découvrir toutes vos facettes ?
Parce qu'il faut du temps pour connaître quelqu'un. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Quand vous rencontrez quelqu'un, il est votre ami vraiment tendre et cher qu'après 10 ans, on peut dire ça. Donc il faut le temps pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est normal. Je n'en veux à personne de pas m'avoir compris à la première seconde où je suis arrivée avec mon disque Lunettes Noires en 89.
Il fallait ce temps. Repris pour le générique de la fameuse émission de Thierry Ardisson.
Voilà. Il fallait ce temps pour comprendre que oui, je fais des choses. Même moi, je savais pas que j'allais être capable comme ça et que finalement, de talent, j'ai surtout du culot. C'est-à-dire, peut-être qu'à l'inverse, moi, comme je veux rien, j'ai tout ou j'ose tout parce que moi, je fais comme Picabia. Picabia, il disait, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est le but. Ouais. Marcher sans but. La et en fait, je marche sans but. C'est-à-dire que tout est cadeau. Quoi qu'il arrive, est un cadeau. J'avais pas rêvé de faire les Parisiennes et ça vient. Mais c'est un cadeau que je prends le wagon en marche et je me dis c'est maintenant, je monte dedans et oui, ça va demander beaucoup de travail et oui, c'était pas prévu et oui, j'avais prévu d'autres choses, mais c'est aussi ça, c'est d'accepter ce qui vient.
Votre rôle en 2010 dans L'Arnaqueur avec Vanessa Paradis, mm-hmm. ça a été une rampe de lancement, à votre avis, pour le grand public?
Oui, parce que tout ce qui a du succès est profitable de toute façon, parce que c'est visible et donc les gens se rendent compte que vous existez. Mais cela dit, j'existais avant et puis je continue à faire des choses qui sont moins visibles.
Bien sûr.
Mais c'est toujours bienvenu, le succès, c'est très agréable.
Alors, Ariel Dombal et Elena Noguera, puisque, une fois n'est pas coutume, vous êtes réunis grâce au groupe Les Parisiennes devant ce micro. Vous savez quoi, on va jouer au jeu des comparaisons. À la question... Faites un vœu. Eh bien, j'ai entendu un jour Ariel répondre être immortelle.
Ah ben oui.
Et Elena, je vous ai entendu dire l'éternité.
Ah ben oui.
Mais oui, donc le temps qui s'enfuit vous effraie à ce point l'une et l'autre.
Ah ben, ça effraie tout le monde. Oh là là, bien sûr. Et d'ailleurs, les Parisiennes le chantent aussi. File, 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 le temps.
Oui.
Mais le temps, oui. Parce que c'est quelque chose d'incernable. Il y a des secondes qui durent une éternité. Et puis, il y a des grandes durées. Par exemple, il nous est incapable aux uns et aux autres de parler de tous nos étés successifs. Ils se perdent tous et c'est comme un seul, très long. Mais on ne peut pas dire les dates et tout ça. C'est quelque chose de tellement abstrait, le temps.
Vous voudriez tout retenir?
J'aimerais, par exemple, je ne sais pas, oui, me souvenir que quand je nageais dans le Pacifique, c'était cet été-là plutôt que tel autre. Mais non, je n'y arrive pas.
Cette fuite du temps vous chagrine aussi, Elena?
Moi, maintenant, je pense que cette réponse doit dater d'un petit peu. Je me suis réconciliée avec cette idée-là. C'est-à-dire que je vois bien que je perds des choses, mais ce que je gagne me rend assez
mais
puissante.
Qu'est-ce que tu perds? Tu perds
on
rien.
On perd
du
toujours
tout.
Des choses. Oui,
mais
on perd la jeunesse. On perd le champ des possibles se restreint, le temps qui nous reste.
Tu as dit que tu perdais toujours une des deux chaussettes et que tu te demandais où était une pyramide de chaussettes perdues.
Oui, je me demandais où était le pays des chaussettes perdues. C'est vrai, puisque tout le monde perd une chaussette.
Oui.
Un continent avec toutes ces chaussettes.
Vous voyez, cette conversation est en train de devenir totalement surréaliste. Alors je continue, mademoiselle, de tenter de vous poser des questions. Bon, Elena Noguera, vous êtes devenue maman très tôt, à l'âge de 21 ans, n'est-ce pas, d'un garçon que vous avez prénommé Tanel.
Oui.
Ariel, vous avez fait le choix, vous qui avez perdu votre maman à l'âge de 10 ans, vous avez fait le choix de ne pas enfanter, de demeurer en fait une éternelle femme-enfant, comme si vous étiez un peu devenue l'enfant de vous-même. Alors, Elena, est-ce que la mère que vous êtes peut expliquer l'énigme qu'est un enfant à une femme qui n'est pas maman?
Oh là là,
est-ce qu'on sait pas,
je sais pas si je peux résumer.
Mais surtout que le fils d'Elena, on dirait d'abord numéro un son fiancé. Ça, c'est ça le grand problème. Parce qu'elle a pas du tout l'air d'une maman. Mais vraiment pas. Et alors, je pense que ça doit lui poser certains problèmes à lui d'avoir une maman si jeune et qui a l'air d'être sa fiancée.
Bah, il doit être très fier, j'imagine.
Je sais pas, j'ai pas
elle. Il est musicien, n'est-ce pas?
Il est musicien, oui. Non, j'arrive pas, je sais pas, c'est vrai que c'est mystérieux. Ben moi, j'ai adoré ça, j'adore toujours ça. C'est, je sais pas, comme si j'avais mis... Non, parce que c'est fini, ça aussi. À un moment, j'ai dit, j'ai mis au monde mon meilleur ami, mais c'est fini, c'est plus le cas non plus, puisque maintenant, c'est un être qui est tout à fait indépendant de moi.
Oui.
Non, c'est curieux, c'est très
curieux.
C'est
pour ça que je vous parlais d'énigmes.
C'est vrai que c'est très difficile... En tout cas, plus on avance et plus je l'aime et moins il m'aime. Et ce qui est normal.
C'est pas vrai.
Non, mais c'est d'une phrase qui est dans le film de Dolan que je trouve assez juste. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on grandit, on est moins attaché à ses parents. Et on devient indépendant et c'est nous avec nous et puis éventuellement la transmission et le fait de devenir parent soi-même. Mais on se détache des parents, alors on les aime pour ce qu'ils ont été, parce qu'on sait qu'ils étaient nos parents et qu'ils nous ont fait du bien quand on était petits et qu'on aimait être dans leurs bras. Mais finalement, il y a un détachement. Et vous, par contre, vous les regardez devenir des êtres
s'éloigner,
humains.
S'éloigner, donc justement, vous voulez tout retenir.
Ouais, c'est assez dingue. Après, on peut en parler des heures et en débattre. Hein, mais
Alors, justement, comme le temps, hélas, est compté. Juste avant de faire une pause, dernière comparaison. Elle concerne en fait la devise que chacune de vous s'est choisie. Vous nous avez dit tout à l'heure, Elena, que vous aviez fait votre, celle de Picabia. Il n'existe pas d'obstacle. Seul obstacle, c'est le but. Il faut marcher sans but. Ariel, vous, vous claironnez, ne te connais pas toi-même. Elles se rejoignent finalement, ces devises.
Pas mal, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que on peut dire que je dis toujours, moi, que je suis un animal de grande vitesse, mais Elena aussi. On est des animaux qui courent dans la jungle, dans la steppe, dans le, voilà, qui grimpent aux arbres, qui redescendent, qui traversent les rivières. On est des animaux agités. Oui. Et ça, c'est certain. Donc, en effet, les obstacles, tout ça, c'est une notion. Tout est obstacle. C'est vrai, le fait qu'on soit mortel est un obstacle. Mm-hmm. Donc, il faut faire avec nos forces et puis y aller, quoi. Et puis, alors, on se fracasse contre le mur, ça, c'est sûr. Mais en même temps, on se relève et on fait tellement de choses.
Des choses scintillantes. Puisque je sais que vous aimez cet adjectif quand vous parlez du groupe Les Parisiennes, voilà, qui va remonter sur scène à partir du 24 mai. Oui. C'est le terme que vous employez. Oui. On trouve tout de suite Ariel Dombal et Elena Noguera. Yes!
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
On se balade cet après-midi en compagnie d'Ariel Dombal et Elena Noguera. Et c'est épatant. Alors, mesdemoiselles, en compagnie de Maréva Galanter et Ina Modja, vous allez embraser, ça c'est une certitude, à partir du 24 mai prochain, ce temple du musical et du glamour. Qu'est donc, enfin que sont, je vais dire, les Folies Bergères à Paris? Tout cela sur des musiques euphorisantes de Claude Bolling, qui sont très très efficaces sur la production d'endorphines, l'hormone du bonheur. Moi, je voudrais savoir comment se déroulent les répétitions, et est-ce que chacune de ces Parisiennes a son tempérament, sa personnalité propre sur scène? Parce que le show dure 1h30, tout ça est très réglé, tout ça est très mis en scène, il y a des décors, mais est-ce que chacune a sa partition propre?
Ça, certainement, oui, parce qu'on va vivre les choses, les mots, les mouvements, chacune avec toutes nos facettes. Mais ce show est quand même très Bluebell Girls. Il faut être parfaitement synchrone et avoir, assurer ce côté visuel très, très précis, comme une horlogerie, une mécanique, pour que ce soit joli. Voilà. On est un espèce de petit mélange entre les Spice Girls, les Bluebell Girls.
C'est pas mal.
Et les Demoiselles Supremes,
de Rochefort.
En fait, c'est comme les Demoiselles de Rochefort, mais à quatre. Et vous voyez, quand vous voyez Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac danser, elles ont beau faire les mêmes pas, vous voyez bien qu'il y a deux tempéraments différents. Là, c'est la même chose. Oui. On fait les mêmes pas, on chante les mêmes mots.
Sauf mais que il y a nous, quatre. On chante vraiment. Ce qui n'était pas le cas des Demoiselles de Rochefort.
Ne soyons pas médisantes, mais effectivement, dans le film, c'était ni la voix.
Parce que là, ce qui est difficile, c'est que c'est du vrai live. Oui. On n'est pas. C'est
vous
pas...
avez un orchestre.
On a un orchestre sur scène et on chante vraiment. C'est pas de ces comédies musicales où il y a des enregistrements et puis les gens bougent sur de la musique. On chante. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est excitant et c'est ça qui est le grand challenge.
Alors, qui vous habille ou vous déshabille pour ce spectacle, puisque vous nous avez dit que c'était très glamour?
Ah, voilà. Alors, il fallait vraiment une très, très grande invention. Alors, on a voulu prendre quelqu'un de totalement contemporain, qui est dans notre époque, qui connaît très, très bien la mode, qui a une expérience comme ça très pointue et qui est adorable et qui est aussi la femme d'un musicien qui nous a aidé beaucoup pour l'apprentissage de nos textes et de nos paroles. Elle s'appelle Fleur de Méry.
Oui.
Et elle est une personne merveilleuse que moi je connaissais d'ailleurs d'avant parce qu'elle avait fait des costumes de mon film Opium.
Oui.
Et puis, bizarrement, aussi Elena la connaissait.
Oui, voilà. C'est une fille qui a travaillé chez Inès de la Fraîche-Sange, chez Vincent Daré, qui a fait la création des costumes, qui les a dessinés, qui les fait fabriquer.
Oui.
Alors j'ai appris que dans les années 60, c'est le chorégraphe Roland Petit qui signait la mise en scène des spectacles des Parisiennes. Oui. Donc j'imagine qu'à votre tour, vous donnez une grande place à la danse dans ce show.
Ah oui, 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 oui. Et alors justement, notre metteur en scène, Stéphane Jarny, est un grand chorégraphe.
Stéphane Jarny, il fait des très très belles chorégraphies, donc c'est un spectacle où il y a des danses, chaque chanson est chorégraphiée, il y a 25 tableaux, 15 costumes, 4 danseurs.
Il faut faire rêver. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça.
Bon, une vingtaine de dates est prévue d'ici la fin de l'année, dans les plus belles salles de France, mais ensuite, est-ce que les Parisiennes pourraient s'exporter à l'étranger?
Oui, absolument. Et je crois qu'il y a déjà une espèce de demande, parce que ça intrigue les Parisiennes, c'est excitant. On se dit, ah bon, mais c'est
quoi une Parisienne? Vous allez partir en Angleterre, en Italie, en Espagne,
oui,
et pourquoi pas aux États-Unis, chanter à New York,
le Japon, les Chinois.
Ouais. On va conquérir le monde.
Oui, absolument.
Alors, il va falloir jongler les unes et les autres avec des vies parallèles pour continuer de jouer au cinéma, à la télé, au théâtre, écrire, réaliser.
Oui, je sais, mais là, justement, on se concentre complètement là-dessus, parce que c'est quand même un très gros morceau.
Mais Elena Noguera, est-ce que vous jouez bien jusqu'au 13 mai au Théâtre de Paris, la pièce baptisée Vera avec Karine Viard? Vous continuez tous les soirs?
Tous les soirs.
Donc vous répétez dans la journée et le soir vous êtes sur scène avec Karine Viard au Théâtre de Paris?
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu sportif, mais je me suis dit c'est un peu comme une vie d'athlète.
Nous, les acteurs et tout ça, les choses s'emballent, le temps est complètement élastique, il se trouve qu'on fait plein de choses tout à coup, qu'on se sent, voilà, et il faut assurer, et il faut être hyper fort.
Alors, par exemple, Ariel, vous mijotez quel genre de projet en marge des Parisiennes en ce moment?
Non, moi, depuis 3 ans, suite justement à mon album La Rivière Atlantique avec Nicolas Kerr, ça a généré un film très underground, gothique, d'aventure, un peu un Harry Potter pour adultes, qui s'appelle Alien Crystal Palace, et qui est ce film que je fais depuis 4 ans maintenant. Et donc, voilà. Mais lui, il sortira beaucoup plus tard, après les Parisiennes. Mais maintenant, j'ai fini de le tourner, de le monter, de chanter, de voilà.
J'avais raison de parler de vie parallèle, en fait. Ariel, vous aviez en 2015 signé une impressionnante mise en scène de La Traviata de Verdi dans le cadre d'opéra en plein air. Vous pourriez, avec ces grands écarts qui vous sont coutumiers, revenir un jour à cet exercice de la mise en scène d'opéra?
Ah oui, pourquoi pas? Oui, c'est passionnant. C'est très, très, très passionnant. Et puis, comme disent les Anglais, it's my cup of tea. Je connais la musique, je connais la danse, je connais les livrets, je connais la musique classique, j'aime les chanteurs, je connais les voix. Voilà, donc tout ça, c'est une orchestration, c'est une mise en scène.
Quant à vous, Elena, vous avez signé votre 3e roman chez Flammarion, Ciao Amore. Mm-hmm. Est-ce que, de temps en temps, vous noircissez des pages pour le prochain? Est-il en cours d'écriture?
Alors, je l'ai commencé et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de vouloir faire des choses. Et donc, j'ai programmé 1 mois de vacances où j'ai acheté des livres que je vais lire pour me remplir à nouveau. Parce que finalement, on ne lit plus, on ne va plus au cinéma à force d'être... Ça devient une obsession. En fait, c'est une forme de boulimie. C'est-à-dire que si il fallait faire un diagnostic devant la nourriture, on verrait que je suis boulimique et qu'il y a une maladie. Et en fait, c'est une maladie que d'être tout le temps dans l'envie de produire quelque chose. Et donc, je lève un peu le pied en me disant, il faut aussi que je prenne le temps de vivre, de me nourrir et de lire des livres.
Alors, tout à coup, elle disparaît et elle va à l'île Saint-Louis avec du Heidegger sous le bras.
Heidegger, parce que j'allais vous demander donc...
Ah bon, c'était Schopenhauer.
Mais ça pourrait. Bon, Schopenhauer. Donc, voilà. Vous voyez que l'éducation, en fait, des parents, c'est bien imprimé.
Ça revient et c'était pas si...
On retrouve tout de suite nos Parisiennes qui sont absolument formidables.
Pour travailler, les Parisiennes version 2018. Laurent Ruquier en a rêvé. Il a réalisé son rêve de gosse reformé. Les Parisiennes, et on en parle cet après-midi dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet.
Ariel Dombal, Elena Noguera, la grande affaire de votre vie ne serait-elle pas, au-delà de votre métier, l'amour d'un homme, le grand amour qu'on parvient à capturer et qui se joue du temps qui passe? Parce que vous êtes à la fois des guerrières, des artistes, des aventurières, mais ce point d'ancrage-là, l'amour, il vous est indispensable?
C'est vous, Ariel, c'est vous qui... Vous y connaissez en amour.
C'est-à-dire que je l'ai mis au poste de commande, voilà.
Vous avez mis l'amour au poste de commande.
Oui, de la vie. Et donc, voilà, et c'est une chose là aussi de foi en l'amour. Il faut aimer l'amour. Et je me rappelle que François Sagan disait, mais dans la vie, il n'y a pas tellement de gens qui aiment l'amour. Il y en a à peu près 2/10, elle disait. Parce qu'il faut avoir la passion de l'amour, la passion de l'état amoureux.
Ne pas avoir peur de s'offrir totalement.
Et de se faire très, 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 très mal, fatalement. Et de croire toujours à cette chose qui est l'énigme même. Et c'est comme un acte de foi.
C'est un acte de foi. Ariel, depuis combien de temps êtes-vous mariée à Bernard-Henri Lévy ?
Ah, je ne sais pas, mais ça fait très longtemps. Et depuis que je l'aime, ça fait très longtemps.
Alors, la rencontre, tout de même, vous dites que vous êtes rencontrée par hasard, mais le hasard, vous l'avez très joliment soudoyé, n'est-ce pas, pour rencontrer l'homme de votre vie. Vous pouvez nous raconter ? Parce que la scène est belle, elle est digne d'un film.
Oui, c'est simplement, je jouais au théâtre déjà, je jouais du Kleist, qui est d'ailleurs une chose extraordinairement romantique. C'est le romantisme allemand, où on se roule par terre de douleur, etc. Et c'est vrai que j'habitais chez ma grand-mère et j'avais vu dans la vitrine d'une librairie La Barbarie à visage humain, en livre de poche, Bernard-Henri Lévy. Et quand j'ai vu ce visage, j'ai été mais foudroyée de passion immédiate. Et je me suis dit, mais ça, c'est l'homme que je vais sauver, il ne le sait pas. Mais voilà, ça a commencé par ça, le coup de foudre à travers.
Donc, vous êtes
allée au théâtre. Et
une dédicace.
Voilà, et puis j'entends qu'il y a une dédicace au musée de l'homme et que parmi les grands auteurs, il y aurait Bernard-Henri Lévy. Alors je suis arrivée toute tremblotante, j'avais mis un jean super serré et tout ça, et je me suis dit, je vais mais le foudroyer. Et alors voilà, c'est vrai.
Et vous êtes arrivée avec son ouvrage, La Barbarie à visage humain.
Voilà.
Vous l'avez posé sur la table dédicace.
Voilà, et j'ai pris une espèce de pose très comme ça, de femme irrésistible. Et il m'a à peine regardée, mais quand même, il m'a quand même jeté un petit coup d'œil. Et ce petit coup d'œil a fait que l'amour s'est scellé pour toujours.
Oui, parce que vous dites, il m'a à peine regardée, mais tout de même, dites-nous ce qu'il a écrit en guise de dédicace.
Voilà, alors c'est ça qui m'a grisée. Mais voilà, je me suis roulée par terre immédiatement. Il m'a juste écrit « En attendant ». Avec des points de suspension.
Oh là. N'est-ce pas, Elena ?
Oh là, c'est
en
génial,
attendant.
J'adore.
Ah,
c'est très énigmatique.
Merveilleux.
Voilà.
Vous, Elena Noguera, à quoi pourriez-vous renoncer pour l'amour d'un homme ? Vous ne renonceriez pas à votre métier. Vous ne renonceriez pas à votre liberté, n'est-ce pas ?
Non, aucun sacrifice. Je ne suis pas sacrificielle. Je trouve que les sacrifices qu'on fait sur l'autel de l'amour... sont regrettables une fois que l'amour s'est en allé. On voit bien qu'on a sacrifié quelque chose pour pas grand chose. Je pense que l'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est.
C'est
donc
si
il faudra m'aimer ainsi.
Voilà, il ne vous demande de renoncer à rien.
Et vice versa.
Elena, elle est assez femme fatale. Hein, donc c'est vrai qu'elle n'a pas tellement besoin de sacrifier parce que les gens sont tous à ses pieds.
Donc, alors, effectivement, Elena, vous avez la beauté, le talent, l'intelligence. Mais vous semblez regarder la vie d'une manière assez. Circonspecte, presque détaché, avec une philosophie que vous êtes forgée. Il y a d'ailleurs une phrase, Elena Noguera, une phrase surréaliste et très poétique qui résume tout ça. Les Maasai s'en foutent.
Ah oui.
Alors je voudrais vraiment que vous nous racontiez comment est née cette réflexion devenue une maxime depuis des années, une maxime les Maasai s'en foutent.
Ça m'a constitué, je devais avoir 15 ans et puis je suis allée au Kenya faire des photos pour le Vogue Italie et donc on y est resté très longtemps et effectivement on a pris des camions et on est allé dans la espèce de brousse et puis on est arrivé chez les Maasai et se confronter à ces peuplades qu'on voit en documentaire, à la télé, qu'on croit connaître, mais y être, se confronter à eux. Donc je vais essayer de synthétiser, mais enfin l'expérience était suffisamment forte pour que, à ce moment-là, je me rends compte qu'ils vivaient très bien sans connaître Claudia Schiffer, mes problèmes d'options pour le Vogue ou pas, si c'était moi qu'on prenait ou pas pour tel défilé, tel couturier, et toutes les problématiques qui étaient les miennes. Est-ce que ma taille était assez fine? Est-ce que mes jambes étaient assez longues? Est-ce que, enfin, le monde dans lequel moi je vivais, ne les atteignait pas et pourtant ils vivaient très bien. Et donc je me disais, ben, les Maasai s'en foutent. Et donc je suis rentrée, j'avais 15 ans, je suis rentrée meilleure personne parce que la mise en perspective a commencé à ce moment-là. Et c'est-à-dire que quoi que je fasse aujourd'hui, je peux très sérieusement vous parler des Parisiennes ici, mais je ne le prends pas au sérieux parce que les Maasai s'en foutent. Ça veut dire que, en gros, finalement, tout ça n'est pas très important en soi.
C'est un grand philosophe, Elena Noguera.
Oui,
Non mais j'adore cette histoire. Alors, les Maasai s'en foutent, rien n'est grave, mais tout de même, il est urgent d'être heureux. Et pour ça, les Parisiennes ont la recette. Elles vont faire leur show dès le 24 mai au Folies Bergères à Paris. Merci, mesdemoiselles. Je vous embrasse.
Merci, nous aussi, on vous embrasse fort, fort, fort. Merci beaucoup.
À très vite. Merci, Isabelle Morizet. On vous donne rendez-vous le week-end prochain avec d'autres invités, puisque vous recevrez Alain Chamfort et Charlotte Valandré. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à écouter, réécouter. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, en replay et en podcast sur europe1.fr.